Bonjour Sybille et bonjour à tous. Alors, cette semaine, on va encore parler d'un sujet qui fâche et on va encore parler de destituer quelqu'un. À force, ma chronique va finir par prendre un peu des airs de dictature. Mais j'y peux rien si j'ai pas l'intention d'être un juif qui courbe les chines et de me faire marcher dessus par les innombrables imbéciles antisémites qui pullulent notre quotidien depuis 2 ans. Parce que visiblement, les antisémites, ils ont résolu tous les problèmes de fertilité dans le monde. Hein. Ça se reproduit à une vitesse, ces machins-là. J'ai l'impression que c'est un peu comme la tête de l'hydre. Tu t'en débarrasses d'un et il y en a 10 autres qui arrivent derrière. Alors, la semaine dernière, on a parlé de destituer une antisémite nationale, Rima Hassan. Cette semaine, on va s'attaquer à une autre antisémite internationale. J'ai nommé la tristement célèbre Francesca Albanese. Rien qu'à l'évocation de son nom, je suis déjà prise d'une crise d'urticaire. Alors, Francesca Albanese, c'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, selon la décision de l'ONU de 1967. Et elle fait l'objet de l'actualité en ce moment parce que la France, la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Autriche vont prochainement exiger devant les Nations Unies sa démission. En cause, un discours qu'elle aurait tenu dans une conférence au Qatar dans lequel elle aurait sous-entendu qu'Israël serait l'ennemi commun de l'humanité. Alors, après avoir écouté son discours, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit. Elle dénoncerait selon elle un système qui serait notre ennemi commun. Mais il n'en a pas fallu de plus pour que tout le mouvement pro-palestinien radical s'insurge, vent debout, contre la décision de nos ministres et de les accuser de vouloir faire taire la gentille Francesca Albanese pour couvrir les intérêts des méchants sionistes. Alors, pour autant, est-ce qu'on peut vraiment exiger la destitution de Francesca Albanese? C'est ce qu'on va analyser ici. Je vais d'abord revenir sur ce que c'est qu'un rapporteur spécial de l'ONU. Une procédure spéciale, c'est un mécanisme créé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour rendre compte de la situation des droits de l'homme, soit dans un pays, soit dans une thématique particulière. Aujourd'hui, il y a des procédures spéciales concernant 13 pays, notamment l'Afghanistan, l'Iran, le Burundi, la Russie ou encore la Syrie, ou encore concernant 47 thématiques différentes, l'alimentation, l'environnement, l'éducation, l'esclavage. Et cette procédure est menée par un titulaire de mandat, soit des groupes de travail, composés de 5 membres chacun, soit des personnes physiques, comme Francesca Albanese, que l'on appelle des rapporteurs spéciaux, ou experts indépendants. Alors, ces rapporteurs exercent leur mandat à titre personnel, ils ne font pas partie du personnel des Nations Unies et ne reçoivent aucun salaire ou rémunération pour le travail qu'ils font. Ils sont nommés pour un mandat qui ne peut pas excéder 6 ans. Francesca Albanese a été nommée en 2022, son mandat doit donc prendre fin au plus tard, en 2027. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement ces rapporteurs ? Eh bien, ils examinent les problèmes et les situations qui relèvent des droits de l'homme selon leur mandat. Ils rendent des comptes au pays ou à l'ONU, ils émettent des conseils, ils organisent des consultations, ils font des plaidoyers, et chaque année, ils émettent leur rapport devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ils ne vont pas concrètement implanter des mesures eux-mêmes, mais ils vont conseiller les États concernés pour le respect des droits de l'homme. Et pour ça, ils doivent effectuer des visites dans les pays ou territoires pour lesquels ils sont nommés au titre de leur mandat. Pour information, Francesca Albanese ne s'est jamais rendue en Israël, car Israël n'autorise plus la visite des rapporteurs spéciaux depuis 2005. Donc elle a mené ses enquêtes sur la base de... d'une je ne sais pas quoi. Probablement sur les dires du Hamas ou du Qatar, puisque la conférence dont on parlait tout à l'heure et pour laquelle elle aurait tenu ses propos était au Qatar, et Francesca y était avec d'autres invités incroyables, des membres du Hamas ainsi que des membres de la République islamique d'Iran. Vous savez, ces gens qui massacrent leur propre peuple dans l'indifférence collective. Autant vous dire qu'en matière d'experts indépendants, on a vu mieux. Et justement, ces rapporteurs spéciaux sont tenus par un code de conduite qu'ils sont obligés de respecter. Et ce que je vous propose, c'est que l'on analyse ce code de conduite par rapport aux propos tenus par Francesca Albanese. En premier lieu, il est dit que les experts indépendants doivent, article 3, accomplir leur mandat grâce à une évaluation professionnelle et impartiale des faits et sans aucune influence extérieure. Pas d'influence extérieure, vraiment. Rappelons qu'elle a participé à une conférence tenue par le Qatar et aux côtés du Hamas et des mollahs iraniens, qui exercent une sacrée influence anti-israélienne. En outre, selon un rapport de l'ONG Human Watch, elle aurait fait l'objet d'une enquête pour des allégations selon lesquelles des groupes pro-Hamas auraient financé plusieurs de ses voyages. À l'article 5 du code de conduite, il est écrit qu'avant d'assumer leurs fonctions, les experts doivent faire par écrit la déclaration suivante. Je déclare solennellement que j'accomplirai mes devoirs et j'exercerai mes fonctions en toute impartialité, loyauté et conscience dans le respect de la vérité. La vérité, donc, dans la bouche de celle qui continue de nier l'existence des viols commis le 7 octobre, malgré toutes les preuves et enquêtes internationales menées à ce sujet. La vérité est toujours par celle qui a créé son propre réseau d'influence mondiale, constitué de plus de 100 individus et ONG et dédié à faire du lobbying contre Israël. sur la façon dont ils doivent mener leurs enquêtes. Il est dit à l'article 6 du code de conduite qu'ils doivent toujours chercher à établir les faits sur la base d'informations objectives et fiables émanant de sources pertinentes, crédibles, qu'ils auront dûment vérifiées. Je rappelle, comme j'ai dit plus haut, qu'elle ne s'est jamais rendue en Israël. Sur quoi établit-elle donc ces preuves crédibles et comment peut-elle les vérifier? Enfin, à l'article 12, il est dit que les experts indépendants ne doivent pas faire valoir leurs opinions politiques personnelles et faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions de retenue, de modération et de discrétion. Et alors là, c'est la foire. Hein. En 2022 déjà, elle avait écrit que l'Amérique était soumise au lobby juif. En 2024, elle a comparé Netanyahou à Hitler et Israël au Troisième Reich. Et en octobre 2025, elle a republié un tweet qui écrivait Israël comme « l'incarnation du mal » et disant que les ayatollahs iraniens étaient meilleurs que les sionistes. Voilà. Alors très honnêtement, le fait qu'elle ait dit ou non qu'Israël était l'ennemi commun de l'humanité, je vous avoue que c'est un détail. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour demander sa destitution? Absolument pas. Maintenant, ce qui m'échappe, c'est comment on peut en venir à s'opposer à sa démission. Qu'est-ce qui peut motiver les institutions comme Amnesty à prendre sa défense? À quel point la haine d'autrui, en l'occurrence des sionistes ou des juifs, appelez ça comme vous voulez, pousse-t-elle à renoncer aux valeurs les plus essentielles d'impartialité, de probité et de justice? Demander sa destitution, ce n'est plus une option. C'est un devoir, si l'on veut conserver autant que faire se bleu, un sampan de colonne vertébrale morale. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.